Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Vous pouvez garder vos Bibles ouvertes, peut-être si vous en avez une, pour méditer sur ce passage. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est une histoire invraisemblable. Invraisemblable. Si vous parlez autour de vous, puisque c'est la période la plus propice pour parler de cet événement-là, autour de Noël, les gens vous diront d'un air compatissant: Tu crois encore à un truc pareil? T'es médecin et tu crois à un truc pareil. Dieu incarné, Dieu dans la chair d'un homme, pourquoi est-ce que c'est si difficile à croire? Moi, j'y crois. Ah oui, j'y crois. J'y crois que Jésus est né d'une vierge. Et il est né de la conception du Saint-Esprit. Ce jour-là, l'histoire de l'humanité a basculé. L'histoire de l'humanité, c'est pas l'histoire de l'humanité, c'est votre histoire qui bascule. C'est la mienne aussi. Ce jour-là, mon histoire, elle a complètement basculé. L'heure de l'incarnation a sonné. Désormais, plus rien, rien ne sera comme avant. Tout va être nouveau. Toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvent ici, dans ces paroles, leur accomplissement. Chacune des paroles que l'ange va prononcer à Marie, ce sont des promesses qui se réalisent à travers elle. Elles sont des attentes du Messie, et depuis des siècles, on attendait un descendant du roi David. Or ici, ça fait écho à une parole qui nous était dite par le prophète Nathan à David en 2 Samuel 7, alors que Dieu répond à David, Dieu voulait construire un temple. Vance nous en a parlé dimanche dernier. David voulait construire un temple à Dieu, et Dieu lui fait dire à travers Nathan que c'est pas lui qui construira ce temple. Et il dit au chapitre 7 de Samuel, au verset 12: Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Et c'est à partir de cette promesse qui a été faite à David que s'est développée cette attente du Messie. Un Messie allait venir de la postérité de David. Et c'est ici le centre de la parole de l'ange Gabriel à Marie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Et il donne un autre titre à Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et en langage biblique, cela veut dire qu'il sera roi, parce que à cette époque, tous les rois recevaient un jour, lors de leur sacre, le titre de fils de Dieu, dans l'attente du Messie qui allait venir. À la grande découverte du peuple hébreu avec Abraham, c'est que le Dieu tout autre, ce Dieu qui a créé les choses, se fait tout proche des hommes. Parce qu'il est le tout autre, son projet n'est pas à la portée de notre intelligence, certainement. Et vous vous souvenez des paroles du prophète Ésaïe, chapitre 55. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu est en train de dire « Je suis mystérieux, mes amis. » Il va falloir faire avec. Mais Dieu se fait tout proche. Et il nous le révèle. Il nous le dévoile. Ou plus exactement, il nous invite à entrer dans son plan, à y participer. Et Paul est l'héritier de cette pensée, de cette méditation de l'Ancien Testament. Et Paul dit ceci. Il se présente comme ça aux Romains. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Cet évangile que Dieu avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et puis il s'émerveille devant le Dieu tout autre, plus loin au chapitre 11 de Romains, et il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur ? Ou bien qui a été son conseiller ? Et plus loin, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. » Mais il s'émerveille aussi devant le Dieu qui se fait tout proche de nous et qui nous fait entrer dans ce qu'on peut appeler son mystère. Dieu fait homme. Truc complètement invraisemblable. Et il le dit comme ça, il le dit dans Romains, mais il le dit en Corinthiens dans la première épître au chapitre 2. « Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. Nous enseignons cette sagesse-là, dit Paul. Et il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux sur cette sagesse-là, ouvrir les yeux sur l'Évangile, ouvrir les yeux de nos cœurs. Et c'est une prière. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, devant ce texte. » Marie, elle a tout compris. Alors on dit « elle a tout compris ». Non, elle ne savait peut-être pas dans le détail ce qui allait se passer, mais elle a compris. Elle a compris. Elle connaissait ces choses, elle connaissait ses promesses. Et elle aussi était dans l'attente. Et elle se permet de rappeler à l'ange qu'elle est encore vierge, quoi. Elle dit, je suis encore jeune fille et comment je ferai pour concevoir? Ce à quoi l'ange apporte la réponse que nous connaissons, mais qui, elle aussi, évoque d'autres promesses messianiques. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Alors on savait que le Messie serait oint par l'Esprit Saint, investi de cette puissance pour accomplir sa mission du salut. Ésaïe, par exemple, dit: un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton sortira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous expliquer là? C'est que tout ça, c'était déjà annoncé par avance. Je ne veux pas vous donner des preuves, mais tout ça, c'était annoncé par avance. C'était des prophéties qui nous ont été données et qui ont été transmises jusqu'à nous et qui se sont réalisées en Jésus-Christ. L'annonce de l'ange va beaucoup plus loin que cela. Car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu, dit l'ange Gabriel. Et visiblement, Luc insiste que cet enfant n'a pas de père humain. Il est fils de Dieu. Et deux preuves dans le texte. D'abord, la remarque de Marie: ben, je ne connais pas d'homme, ce qui veut dire je suis vierge, comment je peux enfanter? Et deuxièmement, la formule: tu lui donneras le nom de Jésus. Et cette formule est adressée à la mère, alors que normalement c'est le père qui nomme son enfant. Mais cet enfant n'a de père que Dieu. Alors comment c'est? Comment tu peux croire à un truc pareil, Pierre? Comment cela est possible? Mais rien n'est impossible à Dieu. Et ça, je crois, rien n'est impossible à Dieu. N'importe quelle naissance naturelle comporte un mystère. C'est vrai, c'est quand même extraordinaire comment on conçoit les enfants. Qu'un enfant naisse. Il y a là une étudiante qui va devenir sage-femme. C'est extraordinaire. C'est un miracle à chaque fois. Vous imaginez comment ça se passe? C'est les cellules du père et les cellules de la mère. Alors, l'enfant qui naît, il est à la fois de son père et de sa mère. Mais il n'est pas à moitié son père et à moitié sa mère. Non, il y a un subtil mélange entre les deux. Un heureux mélange. Et les parents se retrouvent quelque part dans cet enfant. Il est une combinaison des deux. Et si je peux me permettre, Jésus combine aussi de cette même manière la nature paternelle, puisqu'il est Dieu, et puis la nature maternelle, puisqu'il est humain, comme un enfant. Et les deux natures, elles sont pas comme il est d'un côté Dieu et d'un côté homme, non, elles sont intimement liées. Il est homme et il est Dieu. Il n'est pas parfois homme et parfois Dieu. Il est homme et il est Dieu tout le temps. Ça, c'est la réalité de la naissance de Jésus, de son incarnation. Jésus le Christ. Bien sûr, il était là bien avant. Il était la parole. Mais la parole a habité parmi nous, nous dit Jean. L'incarnation, c'est ce gros mot qu'on a incarné dans la chair, ça veut dire Dieu dans la chair. C'est ce Dieu qui nous semble si lointain, qui est indescriptible, mais qui se fait si proche qu'on peut le voir, si proche qu'on peut l'entendre, si proche qu'on peut le toucher, si proche qu'on peut lui ressembler. Alors qu'est-ce que cela change dans ma vie que Dieu est venu sur terre? Paul dit à chaque fois: Dieu est venu sur terre pour nous sauver, pour apporter le salut au monde. Mais ça, c'est une autre histoire. On est à sa naissance. Qu'est-ce que sa naissance vient changer dans ma vie? Ben, Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il est Dieu et il est réellement homme. Et tenir fermement cette affirmation de dire oui, je crois en cela, qu'est-ce que cela change dans ma vie? Ben, ça me donne une vision nouvelle des choses. Et peut-être un peu plus, ça me donne une vie nouvelle. Parce que cette vie nouvelle, elle nous est offerte. Et je vais m'expliquer. Il y a un renversement radical. Pourquoi on a tant de mal à rentrer dans cette chose mystérieuse qu'on a appelée l'incarnation, qui nous dit que Jésus est réellement Dieu, mais qu'il est aussi réellement homme. En fait, la question, c'est qui est Dieu? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un homme? Parce qu'on prétend le savoir d'avance, mais en fait, en réalité, est-ce qu'on sait vraiment qui est Dieu? Et est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'un homme? Et c'est ici que la foi opère un renversement total. Parce qu'il nous faut apprendre à découvrir Dieu à travers Jésus-Christ, mais il nous faut apprendre aussi à découvrir l'homme à travers Jésus-Christ. Ça revient à dire à découvrir qui nous sommes à travers Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul n'a pas cessé de faire pour nous l'expliquer. Et il y a Blaise Pascal qui l'a dit en ces termes: non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Et il dit ça dans les pensées. À la lumière de la parole incarnée, nous sommes appelés à voir Dieu autrement et à voir l'homme autrement. À voir Dieu autrement parce que c'est un Dieu qui s'approche. Et on a dit avec raison qu'il y a une seule certitude à propos de Dieu, c'est que c'est un mot de la langue française. Parce que si vous regardez tout ce qu'on a pu dire de Dieu, on en a dit plein de choses, mais beaucoup de très différentes. Et si vous cherchez un petit peu, chacun a une conception de Dieu. Je me souviens Jacques qui nous parlait quand il était petit que Dieu c'était un homme avec une barbe, mais en fait son voisin s'appelait Dieu, c'était le boulanger je crois. Et donc il était un petit peu troublé par cette idée-là de Dieu. Et c'est vrai, chacun d'entre nous, on a une certaine vision de Dieu. Mais Dieu se découvre à travers Jésus-Christ. Dieu se découvre à travers la relation qu'a Jésus-Christ avec son Père. Et quand vous lisez les évangiles et que vous voyez Jésus qui prie, Jésus qui parle à son Père, vous voyez de quelle nature est Dieu. Il est Père, mais il est aussi Fils. Et puis, dans l'Église, il est Saint-Esprit. Et c'est toute une histoire de relation. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Ce n'est pas quelque chose qui se démontre avec des raisonnements. Mais c'est quelque chose qui se vit. Joseph Thomas, un jésuite, écrit ceci: en Jésus, Dieu nous dévoile la vie intime, vie d'amour, dans la dépossession réciproque de qui n'existe que pour l'autre et par l'autre. Et il en va de même dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle du Saint-Esprit qui n'existe que par Dieu, qui n'existe que pour Dieu, qui est, parfois on le confond, l'Esprit de Jésus-Christ, mais qui est aussi différent de Jésus-Christ. Et tout ça, c'est une interrelation. Pierre Guillaume nous parlait de la triunité de Dieu, pour parler de la relation. Et il est vrai que Dieu est descendu jusqu'à l'homme. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, nous dit Luc au chapitre 19. Mais c'est pour nous faire entrer en lui. Alors, aujourd'hui, il est impossible de se tenir dans l'illusion plutôt rassurante d'un Dieu lointain. Un Dieu avec qui on n'a pas grand-chose à faire, finalement. On n'a pas de compte à lui rendre. Oui, je crois en Dieu, mais bon. Et Dieu, une relation personnelle avec lui, ça t'intéresse? Oh là, pas vraiment. Mais un Dieu qui s'est fait si proche, C'est plus possible de réagir comme ça. Un Dieu qui est venu nous chercher, qui habitait parmi nous, c'est plus possible de réagir comme ça. Un Dieu qui a été vu. Un Dieu qui a été décrit. Parce qu'il a marché parmi les hommes dans les évangiles, on le voit décrit, c'est plus possible de dire ce Dieu-là, il est trop lointain. Les évangiles se font l'écho de ce roi qui fit des noces pour son fils. Et dans ces paraboles, l'épouse, elle n'est jamais mentionnée parce que l'épouse véritable, c'est l'humanité qui est devenue corps de Jésus-Christ, l'Église. Alors le vrai visage de Dieu, eh ben, il nous est enfin livré dans cette incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Qui a vu le Fils a vu le Père, a dit Jésus. Et c'est à travers des traits qu'on a reconnu Jésus, de son humain, que nous pouvons le faire. Dieu a pris la condition humaine et il a pris toute notre condition humaine. Il a eu un cœur humain, des entrailles humaines. Il a eu peur. Il a été dans les angoisses. Il a ri. Il a pleuré. Il a été tenté en toutes choses. Et c'est Dieu qui avait parlé tant de fois et de tant de manières par les prophètes, parle aujourd'hui dans son Fils, nous dit Hébreux. Il parle quoi? Il parle un araméen vulgaire. Il ne parle pas un hébreu intellectuel. Il ne parle pas le grec de l'époque. Non, il parle une langue araméenne et on a du mal à savoir exactement quel araméen il parlait, mais c'était le langage du peuple. Et c'est cette langue-là que Dieu parlait. Une langue qui pouvait être comprise des gens les plus simples. Des gens les plus petits, qu'on appelle les plus petits. Et ce que nous pouvons voir de sa vie, c'est qu'il est plein de compassion, de bienveillance, d'humilité, d'amour. Il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs, nous dit l'évangile de Marc. Et nous sommes ces plusieurs. En Jésus-Christ, c'est aussi l'homme qui est vu autrement. Et quand on le découvre à la lumière de Christ, ben l'homme, il n'est pas comme je pensais. Si vous voulez savoir ce qu'est l'homme, ce qu'il y a dans l'homme, eh bien, il faut se mettre à l'école de Jésus. Jamais homme ne fut si homme que Jésus-Christ. Sans les ruses, sans les refus qui s'efforcent en vain de maquiller notre condition humaine. Pilate prophétise quand il exhibe Jésus devant le peuple en disant « Voici l'homme ». Jésus est homme intégralement. Il est l'homme intégral. Il a suivi jusqu'au bout le chemin de l'homme. Il est né petit enfant des entrailles d'une femme. Il lui a fallu, comme nous, regarder la mort en face. Mais il lui a fallu, et il nous faut consentir à livrer jour après jour notre vie par amour. C'est ce qu'il a fait. La vie véritable, c'est le don de Dieu. Elle est en Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre vie que sa vie à lui. Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Ben, l'incarnation, ça ne modifie pas seulement mon regard, mais elle ouvre à une vie nouvelle, à une vie qui change. Tout peut changer. Si Dieu est venu sur terre, tout peut changer. Si Dieu est venu nous chercher, tout peut changer. Notre rencontre avec Dieu n'est plus la même. Notre vie de tous les jours devient tout autre. Il existe dans le monde plein de chercheurs de Dieu. Plein. Il y en a autant et bien plus que de religions, mais beaucoup de gens cherchent Dieu à leur manière, avec des intuitions. Paul à Athènes mentionnait déjà cette quête de Dieu. Et il semble pour beaucoup de gens qu'il faille faire une rupture avec leur conception de Dieu.
à l'horizon des soucis quotidiens qui nous absorbent. Dieu serait ailleurs de nos soucis quotidiens. Il faut sortir de ces inquiétudes. Dieu, il est ailleurs de tout ça. Mais l'incarnation, elle inverse cette perspective. Parce que dans l'incarnation, Dieu nous dit, je suis au milieu de tes soucis. Je suis au milieu de tes problèmes. Je suis au cœur de ton péché. Si Dieu suscite au cœur de l'homme le désir de le trouver, c'est qu'il est animé lui-même, d'abord du désir de nous rencontrer, du désir de se donner à nous. Et dans l'incarnation, c'est Dieu qui se donne à l'homme gratuitement. Et il veut susciter en nous cette initiative gratuite de nous donner à lui en retour. Et il nous cherche bien plus que nous le cherchons. Alors le lieu véritable de la rencontre avec Jésus-Christ, eh ben, c'est notre vie d'homme. Parce que la vie de Dieu, elle pénètre notre vie dans tous ses actes. Elle passe au cœur de toutes nos opacités. Imaginez un petit peu votre journée et vous mettez à la place de vos pensées, les pensées de Jésus-Christ. Votre journée sera la même, vous allez faire les mêmes rencontres, aller au travail le matin ou à l'école ou en cours, vous allez côtoyer vos amis, vous allez être soumis aux mêmes tentations, mais avec les pensées de Jésus-Christ. Il va rencontrer les conséquences des péchés antérieurs. Vous imaginez ce que serait votre journée? Ben pourtant, c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Dieu s'est fait homme pour que la vie de Dieu pénètre tout humain, pour qu'il n'y ait plus rien en l'homme d'où Dieu doit être absent. C'est-à-dire, Dieu doit être présent dans notre engagement de tous les jours, dans notre société séculière, présent au travail, présent dans nos familles, présent dans nos relations avec nos amis, présent lorsqu'on sort boire un verre avec des copains, présent quand on est dans une réunion comme aujourd'hui. C'est plus facile de penser qu'il est présent là, dans ma vie, mais il doit être présent partout ailleurs. Tout peut être sanctifié dans notre vie. Tout peut avoir un sens parce que Dieu est venu avec nous. Les séraphins dans Ésaïe chapitre 6 disent que ceux qui se tiennent, c'est ceux qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu et qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Qu'est-ce qu'on voit? Vous la voyez, la gloire de Dieu, tout le temps, sur toute la terre, pleine de sa gloire. Il y a un texte de Rick Joyner, un auteur qui a écrit La Moisson, qui dit: Quand j'étais jeune chrétien et que je lisais ce passage, je me disais que ces anges se trompaient. Je ne pouvais pas comprendre comment ils pouvaient dire toute la terre est pleine de sa gloire, alors que toute la terre semble remplie de guerre, de maladies, de maltraitance, de tricherie, de violence, de mal sous toutes ses formes. Mais la raison pour laquelle ces séraphins disent que toute la terre est pleine de sa gloire, c'est qu'ils se tiennent en présence de Dieu. Et quand on est en présence de Dieu, nous ne voyons rien d'autre que sa gloire. Et il écrit plus loin en transcrivant une parole de Jésus qu'il a reçue dans son cœur, dans la prière, alors qu'il se demandait pourquoi il déprimait si souvent. Et c'est Jésus qui lui répond: Je sais que cela peut sembler simpliste, mais à chaque fois que tu détournes ton regard de moi, cela suffit pour tomber et perdre le sens de ton existence. Quand tu demeures en moi, tu ne verras rien d'autre que gloire. Cela ne veut pas dire que tu ne verras pas les conflits, la confusion, les ténèbres et les découragements qui sont dans ce monde, mais quand tu les verras, tu verras aussi ma réponse à ces choses. Si tu demeures en moi, tu verras à chaque instant comment la vérité l'emporte sur le découragement et comment mon royaume arrive. Alors la question qui se pose à nous,
dans cette vie d'homme, c'est comment faire face aux difficultés. Et la différence, en fait, et je le dis souvent, elle est ténue entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Quand vous regardez l'humanité, il y a des bonnes gens qui font plein de bonnes choses et qui ne croient pas. Heureusement, les chrétiens n'ont pas le monopole du bien. Je dis toujours ça. Mais quelle est la différence, finalement? Au bout du compte, quelle différence ça fait? Eh bien, la différence, elle est peut-être ténue dans peut-être ce que Richard avait dit, cette petite fille trisomique. Quel changement elle fait dans ce monde? Ben, elle a changé le cœur d'un homme, le cœur de son père, cette petite fille trisomique. La question qui se pose, c'est pas comment Dieu change les événements face à nos difficultés, c'est pas comment, mais c'est de savoir qui le fait. Et face aux annonces de l'ange Gabriel, la réponse de Marie, et je terminerai avec ça, est d'une simplicité extraordinaire. Et on peut dire qu'on a là un bel exemple d'obéissance dans la foi, un des plus beaux exemples d'obéissance dans la foi, comme dit Paul. Elle a une confiance totale, totale en Dieu. Elle reprend le mot de tous les grands croyants avant elle, depuis Abraham, et elle dit « me voici Seigneur ». Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, le mot servante, ça évoque pas la servilité comme on le sent, on le pense d'esclave, mais plutôt une libre disponibilité à Dieu. Il suffit de dire oui, oui Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Quelle différence Marie avec une autre mère qui porte un enfant? Ben, elle était nulle la différence quand elle le regarde. Deux femmes enceintes. Mais quelle différence! Quelle différence! Grâce à ce oui de la jeune fille de Nazareth, eh ben, la parole se fait chair. Et il vient habiter parmi nous. Si tu dis oui au Seigneur, la parole se fait chair dans ta vie. Et Christ vient habiter dans ta famille. Il vient habiter à ton travail, il vient habiter là où tu es avec tes amis. Me voici Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20, dit Paul. Et il dit aussi, nous avons donné notre vie à Jésus et il s'est donné à nous. En gros, il a déménagé. Il a défait ses bagages chez nous. Il s'est installé dans sa nouvelle maison, qui est notre corps. Et il est prêt à nous changer en la même image de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens 3, 18. Nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alors, mais pourquoi je me ressemble toujours autant? Et il y a une petite dame sur la côte irlandaise. Je termine juste avec cette histoire qui, au début du XXe siècle, c'était une petite dame qui avait une jolie maison, qui était assez aisée, mais qui était un peu... Elle menait une vie très simple, elle ne dépensait pas beaucoup d'argent. Et tous les habitants du village ont été très surpris lorsqu'elle a été la première à faire installer l'électricité chez elle. Et puis, après quelques mois, il y a un monsieur qui venait relever les compteurs, qui relève le compteur et qui voit le compteur et qui se dit « Mais il n'y a presque rien d'utilisé comme électricité, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc il va voir cette petite dame, il dit « Je ne comprends pas, il dit ça fait 6 mois que vous avez l'électricité et vous n'avez presque rien utilisé. » Ben elle dit « Bah oui, bah, moi tous les soirs au coucher du soleil, je mets la lumière tout juste assez longtemps pour allumer les bougies et puis après je l'éteins. » C'est une histoire authentique, hein. C'est pas une histoire pour... Mais cette histoire, est-ce qu'elle n'est pas authentique parfois dans nos existences? Avec la lumière du Seigneur. On allume juste un petit peu, comme ça. On a l'électricité, on a tout ce qu'il faut. Hein.
On est cuisine équipée, on a un garage, maison domotique, tout. Je parle de nos cœurs. Ils sont tout équipés pour servir Dieu, tout équipés pour lui ressembler. Alors, je vous invite à allumer sur tous les interrupteurs de vos vies pour faire entrer la lumière du Seigneur partout où elle doit rentrer, même dans les coins les plus sombres, dans les cagibis où vous avez mis des choses que personne ne connaît, que seul vous connaissez. Mettez-y un coup de lumière quand même. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle que tu es venu dans ce monde. Qu'un jour, Seigneur, tu as voulu marcher parmi nous, vivre une vie d'homme, pleinement une vie d'homme, Seigneur, que tu as été bébé, que tu as été nourri au sein, que tu as grandi, Seigneur, que tu as joué avec d'autres enfants, que tu as appris à lire, que tu as appris des choses concernant ton Père. Cette merveilleuse relation que tu nous as apprise entre toi, Père, et toi, Fils. Et aujourd'hui, toi, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vivre cette vie-là, être des hommes et des femmes dignes de ce nom d'homme et de femme. Nouvelle création, Seigneur, en toi, Jésus. Amen.